Eric Manila Kidza vous souhaite une excellente soirée chez vous. À la prochaine.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du vendredi 27 novembre 2020. Abdourahmane Diallo, la présentation, voici les titres. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a reçu les envoyés spéciaux de l'Union africaine au lendemain de l'assaut lancé contre Mekele, la capitale du Tigré. Sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique australe, la SADC, ce vendredi au Botswana. La RDC est au menu des discussions. Le fabricant britannique de médicaments AstraZeneca coopère avec les régulateurs gouvernementaux pour enquêter sur une erreur de fabrication d'un vaccin contre le Covid-19. En France, 4 policiers accusés de violence sur un producteur noir ont été placés en garde à vue. Le président Macron se dit choqué par les images du passage à tabac. Également, dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a rencontré ce vendredi à Addis Abeba les envoyés spéciaux chargés par l'Union africaine d'une médiation dans le conflit au Tigré. Cette rencontre intervient au lendemain du lancement annoncé de l'offensive finale contre Mekele, la capitale de cette région dissidente du nord du pays. Les précisions de John Lyndon.
La communauté internationale inquiète des conséquences d'un assaut sur Mekele pour ses 500 000 habitants, tente de faire pression sur M. Abiy. Mais celui-ci a fermement rejeté toute interférence dans les affaires internes de son pays. Entre autres initiatives, l'Union africaine, dont le siège est à Addis Abeba, a nommé 3 envoyés spéciaux. Les anciens présidents mozambicains Joaquim Chissano, la libérienne Hélène Johnson Sirleaf et le sud-africain Halima Motlanthe arrivés mercredi dans la capitale éthiopienne. Abiy Ahmed s'est engagé à les rencontrer par respect, mais avait par avance décliné poliment cette offre de médiation comme toutes les précédentes, rappelant que son gouvernement avait la responsabilité constitutionnelle de maintenir l'ordre au Tigré et à travers le pays. Abiy Ahmed n'a pas manqué de souligner la patience dont il dit avoir longtemps fait preuve face aux provocations et à l'agenda des déstabilisations du TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré.
Par ailleurs, les Nations Unies ont indiqué ce vendredi avoir transporté par avion 32 tonnes d'aide d'urgence à Khartoum pour assister plus rapidement les milliers de réfugiés qui fuient les combats et les violences en Éthiopie voisine. Le HCR, l'agence onusienne chargée des réfugiés, a indiqué qu'une deuxième cargaison doit arriver par avion de Dubaï lundi, alors que plus de 43 300 réfugiés ont traversé la frontière jusqu'à présent. Le nombre de réfugiés pourrait atteindre les 200 000 dans les 6 prochains mois, d'après les agences humanitaires. Réunion ce vendredi des chefs d'État de la SADC, la communauté des États d'Afrique australe, au Botswana. Au menu des discussions, la force d'intervention rapide de la MONUSCO, la mission onusienne en République démocratique du Congo. Le point avec Eddie Isongo.
La question du terrorisme en RDC et au Mozambique a été les principaux objets du sommet extraordinaire. La Troïka de la SADC s'est réunie avec les pays contributeurs en effectif militaire au sein de la force de la brigade d'intervention qui soutient la MONUSCO dans les combats contre les milices et rebelles dans l'est de la RDC. Ils ont, sur proposition de l'ONU, décidé de réaligner les effectifs actuels de la brigade FIB, mais aussi de constituer 2 unités de réaction rapide par les militaires provenant de pays contributeurs de troupes membres de la SADC. Les chefs d'État de la région ont assuré les soutiens régionaux au développement et à la mise en œuvre de la stratégie conjointe des retraits progressifs et échelonnés de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Quant au Mozambique, les sommets extraordinaires de la Troïka de la SADC a décidé de développer une stratégie régionale globale à examiner d'urgence les sommets et de les soutenir dans son combat contre les actes de terrorisme perpétrés dans la province de Cabo Delgado. Félix Tshisekedi de la RDC a eu des entretiens en aparté avec son homologue botswanais Mokgweetsi Eric Kiabetswe Masisi sur la situation dans son pays et les questions d'intérêt commun.
Par ailleurs, les dirigeants de la SADC sont convenus ce vendredi donc d'apporter une réponse régionale à l'insurrection islamiste qui ravage des zones dans le nord du Mozambique lors de ce sommet extraordinaire à Gaborone. Les djihadistes qui ont prêté allégeance au groupe État islamique sont actifs depuis 3 ans dans la région de Cabo Delgado au Mozambique. Ils attaquent les villages pour y semer la terreur et tenter d'y implanter un califat.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le fabricant britannique de médicaments AstraZeneca coopère avec les régulateurs gouvernementaux pour enquêter sur une erreur de fabrication d'un vaccin contre le COVID-19 expérimental pendant que des cas d'infection se multiplient. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
La société pharmaceutique et l'université d'Oxford ont admis qu'un dosage moyen du vaccin fonctionne mieux qu'un dosage complet selon un porte-parole d'AstraZeneca. Cette déclaration intervient alors que la société se prépare à fournir un approvisionnement temporaire du médicament avant la distribution de 4 millions de doses du vaccin d'ici la fin de l'année. Pendant ce temps, le deuxième plus grand état d'Australie, Victoria, n'a enregistré aucune nouvelle infection à coronavirus ni aucun décès au cours des 28 derniers jours, selon des responsables de la santé qui estiment ce seuil largement accepté par les experts comme une élimination du virus dans la communauté. Cependant, des cas d'infection ont été détectés dans d'autres parties du pays. Les États-Unis ont dénombré plus de 181 000 cas hier et enregistré près de 2 300 décès dus au coronavirus. Pendant ce temps, la Cour suprême des États-Unis a émis une ordonnance temporaire empêchant l'État de New York de limiter les présences dans les lieux de culte dans les zones présentant des pics d'infection. Le tribunal s'est rangé du côté du diocèse catholique romain de Brooklyn et de 2 congrégations juives orthodoxes qui ont contesté le système mis en place par le gouverneur Andrew Cuomo.
Ici aux États-Unis, à cause du coronavirus, les consommateurs sont tous masqués et moins nombreux que d'habitude ce vendredi chez les principaux détaillants à l'occasion du fameux Black Friday qui voit tous les ans les gens se ruer dans les commerces au lendemain de Thanksgiving pour décrocher les meilleures offres. Les explications de Nathalie Barche.
Le grand centre commercial Walmart a ouvert ses portes à 5h du matin, demandant aux clients de suivre un parcours avant de passer aux caisses, entouré de boucliers en plastique. Best Buy a employé des travailleurs en gilet orange sur ses parkings. Certains contrôlaient la température des clients et offraient des marchandises, y compris des jouets, des vélos et des appareils de cuisine, pour décourager les nouveaux venus de s'attarder dans les allées des magasins. Dans la plupart des commerces, les acheteurs entrent alignés à une distance de 6 pieds les uns des autres. Selon les principaux détaillants, le trafic a diminué de 20 à 30% par rapport à l'année dernière. Les foules ont globalement baissé, mais il y avait de longues files d'attente dès 2h du matin pour la vente de consoles de jeux informatiques populaires, d'autant plus longues qu'il faut respecter la distanciation sociale. Les centres de contrôle et de prévention des maladies ont estimé que faire du shopping dans des magasins bondés avant ou après le Thanksgiving était une activité à haut risque. Plus de la moitié des consommateurs ont l'intention de faire des achats en ligne pour ce Black Friday, selon une enquête de Adobe Analytics qui a prédit que les ventes totales de la journée devraient franchir les 10 milliards de dollars.
Le président français Emmanuel Macron se dit choqué par le violent passage à tabac d'un homme noir par des policiers à Paris. Les images montrant Michel Zecler, un producteur noir, roué de coups par 3 policiers dans l'entrée de son studio de musique ont provoqué une série de réactions en France. Les footballeurs vedettes Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé se sont aussi indignés sur les réseaux sociaux. Les 4 policiers mis en cause ont été placés en garde à vue ce vendredi. Le négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier, se rend ce soir à Londres pour reprendre les difficiles discussions sur la relation commerciale post-Brexit avec la Grande-Bretagne. Il est impossible de dire si un accord est encore possible ou non. Les ambassadeurs de l'Union européenne ont réclamé à l'unanimité que l'exécutif européen publie rapidement les mesures d'urgence et les propositions législatives en cas d'échec des discussions. Côté britannique, l'homologue de M. Barnier, David Frost, croit qu'un accord reste possible, ajoutant dans un tweet « Mais pour qu'un accord soit possible, il doit respecter complètement la souveraineté du Royaume-Uni ». Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée ce soir par John Lyndon.
Au Togo, le régulateur des télécommunications obtient gain de cause sur les tarifs d'appels téléphoniques. Selon Financial Afrique, les deux principaux opérateurs de téléphonie mobile du pays ont suspendu l'augmentation des tarifs des communications inter-réseau constatée à la faveur de l'alignement des tarifs inter- et intra-réseau. Atlantic Telecom Togo, autrement dit Move, et Togocell ont réaménagé leur grille tarifaire une deuxième fois en une semaine en supprimant l'augmentation des 10 francs CFA par minute des tarifs des communications inter-réseau mises en œuvre le 20 novembre 2020. Le Trésor public du Niger a levé jeudi sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine un montant de 27 milliards de francs CFA au terme de son émission par adjudication de bons assimilables du Trésor à 364 jours. Cette levée de fonds rentre dans le cadre de la stratégie des autorités gouvernementales nigériennes pour assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État. Les intentions d'émission des titres publics déclinés par ces autorités pour le mois de novembre se chiffrent à 65 milliards de francs CFA contre 20 milliards en octobre, soit une augmentation de 45 milliards.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir à tous. C'est une première dans l'histoire. La finale de la Ligue des champions de la CAF oppose ce soir au Caire deux clubs d'un même pays, le Zamalek et Al Ahly d'Égypte. Al Ahly a remporté 8 fois le titre de Ligue des champions et 42 fois celui de champion d'Égypte. Le Zamalek a empoché le titre africain 5 fois, à égalité avec le club congolais du tout-puissant Mazembe et compte 12 titres égyptiens. 3 joueurs de chaque équipe sont forfaits pour cause de Covid-19. Côté Al Ahly, il s'agit du milieu de terrain malien Aliou Dieng et des milieux offensifs Walid Soliman et Saleh Gouma. En face, le défenseur central Mahmoud El Wench, le latéral gauche Abdallah Gouma et le milieu offensif Youssef Obama ont aussi été contaminés. L'arbitre algérien Mustapha Gorbal a été désigné pour officier la rencontre qui se joue à huis clos. Pendant ce temps, la saison 2020-2021 de la Ligue africaine des champions commence ce week-end avec le tour préliminaire à suivre entre autres rencontres Forest Rangers de la Zambie contre AS Bougendi Sport du Gabon, Nyang Buffaloes d'Iswatini et le messager de Ngozi de Burundi. Les Buffles du Bénin affrontent le MC Alger d'Algérie. Gambia Armed Forces de la Gambie donc fera face à Teguit FC du Sénégal. Le Racing Club d'Abidjan fera face à Asco de Kara du Togo. Raimo du Burkina Faso jouera Inimba du Nigeria. Le stade malien de Bamako se déplace dimanche à Conakry pour y affronter l'AS Ashanti Golden Boys de Guinée. Le coach du club malien se dit prêt pour la rencontre, Rigaud Gervais.
On est confiant malgré les difficultés, surtout que le championnat n'a pas encore commencé ici. On aurait voulu être aussi à la 4e journée comme les Guinéens. On a fait un stade bien regroupé. On a essayé en 3 semaines de conduire tout ce travail-là. Ça s'est axé sur le plan physique d'abord, sur le plan athlétique. Parce qu'on n'était pas en championnat, il fallait faire la préparation rapidement. Et puis, deuxièmement, maintenant, on est dans l'aspect tactique. La troisième partie, c'est l'aspect aussi psychologique. Il faut que les joueurs soient dans un bon état d'esprit pour pouvoir aborder ce match important.
Rigaud Gervais, coach du stade malien au micro de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako. Les clubs exemptés du premier tour sont Al Ahly d'Égypte, l'AS Vita Club de la RDC, le club Deportivo de Agosto d'Angola, Espérance Tunis de la Tunisie, donc Ouria AC de la Guinée, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, le Raja Athletic Club du Maroc, le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo, le Wydad Athletic Club du Maroc et le Zamalek d'Égypte. Basketball, les éliminatoires de l'Afrobasket 2021 se poursuivent Pour les premiers matchs dans le groupe A, la Tunisie a battu Madagascar 89-52 et la RDC a battu la Centrafrique sur le fil 55-51. Demain, la République démocratique du Congo fera face à la Tunisie et la Centrafrique jouera Madagascar. Toujours ce samedi dans le groupe D, le Mali affrontera le Soudan du Sud et le Nigeria le Rwanda. Dans le groupe E, l'Ouganda fera face au Maroc et le Cap-Vert jouera l'Égypte.
Merci Yacouba. Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, fin hier de la concertation entre les acteurs politiques et de la société civile sur l'organisation de l'élection présidentielle de 2021. Celle-ci aura bien lieu dans les 3 à 4 mois et le gouvernement procédera à la révision des listes électorales. L'opposition estime que sur ces questions, il n'y a pas eu de consensus. Les détails avec Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Les débats ont été houleux dans les commissions et même à la plénière entre opposition et majorité à ces assises de Madingou. Ici, Pascal Sassimabiala, chef de file de l'opposition, lors de la plénière de jeudi.
L'opposition ici est à la position congrue. Et vous faites voter, mais nous sortons de la salle parce qu'il n'y aura rien du tout. Or, nous sommes ici, mais vraiment, dans un esprit de construction, d'apaisement. Il faut qu'il y ait des débats sereins. Mais si, tel qu'a dit le secrétaire général du PCT, là où il n'y a pas consensus, immédiatement on va voter, il n'y avait pas de raison de venir à Madingou.
L'opposition a exigé le recensement général de la population, une opération qui pourra dépasser le mandat du chef de l'État en mars 2021. La majorité a donc proposé la révision de la liste électorale. Et il n'y a donc pas eu de consensus, selon l'opposante Claudine Mounari.
On peut se s'accorder sur le plan politique pour dire terminons le recensement général de la population pour avoir un corps électoral fiable et aider aussi à nous installer dans la biométrie pour que nous fassions pour une fois une élection calme, transparente et apaisée. Voilà ce que nous sommes allés demander à Madingou. Nous ne l'avons pas obtenu.
Analysant fraîchement ces recommandations, le politologue Constant Ebarapeya juge que l'opposition a tout simplement échoué à Madingou.
Alors, finalement, l'opposition vient de rater là une occasion qui devait lui permettre de mettre en difficulté le pouvoir de Pila. Malheureusement, il s'est versé dans une gourmandise qui est liée à une gourmandise pécuniaire. Avec ce que j'ai vu comme recommandation, l'organisation des élections dans une période de 4 mois, je pense que Madingou a posé les bases d'une contestation. Mais là où le pouvoir sort la tête haute, c'est parce qu'elle a réussi malheureusement à mettre l'opposition dans la sauce. Maintenant, est-ce qu'il y aura des élections dans de bonnes conditions? J'ai dit non.
Dans tous les cas, il revient au président Denis Sassou Nguesso, vraisemblablement candidat à sa succession à la prochaine élection, d'en décider. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Dizaines de milliers de personnes vivant avec le VIH au Cameroun refusent de se rendre à l'hôpital par crainte du nouveau coronavirus. Ils se mettent à risque s'ils ne prennent leurs antiviraux, avertissent les agents de santé. Reportage à Yaoundé d'Edwin Mokikinzeka avec le récit de Lionel Gaïma.
À l'hôpital adventiste de Tougébé à Yaoundé, une trentaine de personnes vivant avec le VIH écoutent des spécialistes de la santé au sujet de leurs conditions. La dernière réunion du groupe remonte à 9 mois, explique que Nyako Sinti Njiti, qui vit avec le VIH depuis 5 ans.
Nous avons toujours tenu des réunions mensuelles où nous partageons des idées. Nous nous encourageons les uns les autres et les gens parlent de leur succès. Le fait qu'on ne puisse plus se réunir empêche les enfants de se retrouver et de s'amuser. Lorsqu'ils viennent pour les médicaments, nous avons des sessions de conseil avec eux. Toutes ces choses-là n'ont plus lieu.
De 300 000 personnes vivant avec le VIH dans le pays et ayant besoin d'antirétroviraux, 60% refusent de se rendre à l'hôpital par peur d'attraper le Covid-19, déplore le ministère camerounais de la Santé. Son Etienne Gay travaille à la Convention Baptiste des Services de Santé du Cameroun. Ne pas prendre régulièrement les antirétroviraux affaiblit le système immunitaire des personnes vivant avec le VIH, fait-il remarquer.
Lorsque le système immunitaire est faible, toute maladie qui atteint le corps va l'infecter et vous avez ainsi de fréquentes diarrhées, la perte de poids, des maladies comme la méningite cryptococcique et la tuberculose. Ce sont des maladies opportunistes très courantes.
Face à cette situation, les agents de santé rendent visite aux malades à domicile et leur donnent des antirétroviraux pour un mois, explique Gilbert Tenet du Conseil médical du Cameroun.
Nous avons besoin que ces patients se rendent à l'hôpital pour les conseils, les médicaments et d'autres formes d'appui. C'est pourquoi nous avons conçu le service différencié qui nous amène à nous rendre dans les communautés pour assister ceux qui ne peuvent pas venir à l'hôpital.
L'infirmière Awa Fani rapporte que du fait de la pandémie, certains hôpitaux commencent à manquer de fonds pour les personnes vivant avec le VIH.
Les fonds sont limités. Les donateurs se concentrent maintenant sur la COVID-19 et on se demande comment nous allons distribuer les ressources de manière équitable, de façon à nous occuper des enfants séropositifs en même temps que de ceux atteints du coronavirus.
Selon le ministère camerounais de la Santé, 75% des enfants atteints du VIH meurent dans les 5 premières années de leur vie. Le gouvernement reproche aux parents de ne pas assurer le suivi médical de leurs enfants, alors que certains parents n'ont pas les moyens de payer le transport jusqu'à l'hôpital.
La radio FM Liberté, partenaire de la VOA, a été quadrillée par la police ce matin. Le personnel et des journalistes brutalisés, voire séquestrés avant d'être libérés. Les raisons de cet incident n'ont pas été notifiées à FM Liberté, mais certains évoquent l'interdiction par les autorités d'un forum de l'opposition et de la société civile. Pour en parler, John Lyndon a joint à N'Djamena Lazare Ndjekoninga, directeur de FM Liberté.
Et 11h35 de N'Djamena, un corps spécialisé de la police appelé le groupement mobile d'intervention de la police était arrivé avec des éléments dans 4 Toyota bien armés. Donc ils se sont postés devant la radio. Ils ont interdit aux gens d'entrer et d'en sortir. 30 minutes plus tard, ils ont commencé par jeter des grenades lacrymogènes dans la cour. Alors que depuis 2 jours, l'Union des radios privées du Tchad organise une formation des journalistes des provinces de radios privées dans la production radio. Donc, des jeunes ont été équipés et ils couraient dans tous les sens dans la cour. Et c'est comme ça que la police a même investi la cour pour prendre 20 stagiaires journalistes en formation et 8 journalistes de la radio FM Liberté. Et on les a acheminés aux renseignements généraux pour les écouter. Et maintenant, on les a libérés de 28 personnes. Et on ne sait pas quel est le mobile. Alors que la police aurait dû se présenter et donner le mobile. Pourquoi? Elle est là à la radio, mais rien n'a été dit. Donc nous-mêmes, ça nous surprend.
Alors, donc jusqu'ici, on ne vous a pas dit pourquoi est-ce que vous avez été assailli.
Aucune raison n'a été avancée jusque-là.
Mais on parle d'un forum qui aurait été interdit par le gouvernement et dont vous parlez.
Non. Le forum devrait avoir lieu ce matin. Mais comme le forum est interdit, comment on peut en parler? Il faudrait qu'il y ait le forum pour qu'on traite les éléments du forum. Donc, ça, c'est un alibi et c'est pas fondé.
Est-ce que vous déplorez des pertes quelconques, matérielles ou...
Non, il n'y a pas de pertes matérielles. Sinon, les stagiaires en formation venant des provinces, il y a une dame là qui a pris le gaz, elle est équipée, on l'a amenée à l'hôpital, maintenant ça va.
Et vous êtes la seule radio à avoir été attaquée, on va dire comme ça, ou il y a d'autres?
Non, la police a d'abord commencé par occuper la radio essentielle, une radio de l'église catholique, après la radio Vision FM, une radio privée, et puis ils ont même occupé le siège de la maison des médias du Tchad et ils ont évacué les centres qui relèvent de l'Église catholique. Tout ce qui est susceptible, ou bien tout ce qui tient lieu pour organiser des grands débats comme d'habitude, la police a pris ça d'assaut au petit matin.
Lazare Ndjekoninga, directeur de FM Liberté. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Lionel Gaïma et Michel Joseph. À la présentation, Abdourahmane Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayigouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les images d'hommes, de femmes et d'enfants morts ou blessés à Douma en Syrie, après que le régime d'Assad, appuyé par l'Iran et la Russie, a tiré en 2015 des volées de missiles sur le marché grouillant de monde de cette ville, sont déchirantes. 70 civils ont été tués et 500 autres blessés dans cette attaque du 30 octobre. Il constitue un tragique rappel du coup de la guerre de Bachar al-Assad contre le peuple syrien qui a fait plus de 500 000 victimes au cours des 9 dernières années et demie. En mémoire des victimes de Douma et d'autres atrocités commises par le régime d'Assad, le département d'État américain et le département du Trésor ont pris des sanctions contre 19 individus et entités sous la loi CSAR, Syria Civilian Protections, de 2019 et d'autres lois. Le Bureau de contrôle des actifs étrangers du département du Trésor a pris des mesures contre des responsables de l'armée syrienne, des membres du Parlement syrien, des entités gouvernementales syriennes et des ressortissants syriens et libanais qui tentent de relancer l'industrie pétrolière d'Assad, ainsi que le secrétaire d'État Mike Pompeo l'a noté dans une déclaration. Les sanctions de l'administration illustrent la profonde manière dont le régime Assad a corrompu les institutions syriennes. Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a lui aussi souligné que le département du Trésor est déterminé à appliquer la pression économique sur le régime Assad et ses partisans pour la répression menée par le régime. Alors que ceux faisant des affaires avec les 19 individus ou entités désignées s'exposent eux-mêmes au risque de subir des sanctions, le secrétaire d'État, Pompeo, a clairement dit que les sanctions ne visent pas le commerce de bonne foi lié à l'aide, l'assistance ou l'activité humanitaire et que le gouvernement des États-Unis continuera à fournir de l'aide humanitaire au peuple syrien. Les États-Unis, a dit le secrétaire d'État Pompeo, sont engagés à répondre à la demande du peuple syrien d'une solution politique durable au conflit, conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l'ONU. À cette fin, nous soutenons l'appel de l'émissaire spécial de l'ONU, Geir Pedersen, pour un cessez-le-feu national en Syrie, la libération des détenus et prisonniers politiques, l'élaboration d'une nouvelle constitution, de même que l'organisation sous l'égide de l'ONU d'élections libres et équitables. Le régime d'Assad a un choix, a dit le secrétaire d'État Pompeo, prendre des mesures irréversibles vers une solution pacifique de ce conflit qui perdure depuis près d'une décennie ou faire face à d'autres sanctions paralysantes.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.